Alors viens, ça va t'amuser. Figitus, figitus, zambrecapon.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait taille à lutter.
Un peu de zat.
De
grève.
Pilotes sont qu'on crève, de faim, de froid, de tout, autant faire la grève.
Du gaz de schiste.
Exploitation de gisements de gaz de schiste.
Du logement.
Toi,
du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Info du vendredi.
Avec les membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un mot sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Voilà, ça fait un Larsen de malade. Il n'y a pas de consensus. Il est 19h02. C'est Radio Canu, le Canu Info du vendredi. Pourquoi ça Larsen de la sorte? C'est hyper désagréable. Je suis triste. On a trouvé la source du Larsen. On va donc pouvoir régler ça. En attendant, de quoi allons-nous parler ce soir?
On commence par le local et on va avoir un entretien avec le mouvement des sans-fac.
Absolument. Ensuite, on passera à l'international où on vous parlera des politiques migratoires racistes qui se multiplient encore et encore un peu partout en Europe.
Pour en continuer après avec rubrique nationale, 15 organisations attaquent l'algorithme de notation de la CNAF devant le Conseil d'État.
Et puis dans le national toujours, dans une rubrique santé, on vous parlera des urgences privées, notamment celle de Ramsay qui sélectionne les patients et les patientes les plus rentables.
Pour en finir, comme d'habitude, avec notre agenda de la semaine et qu'est-ce que ça veut dire ACAB ?
Qu'est-ce que ça veut dire ACAB ? La quête infinie du Canu Info du vendredi. Si vous savez ce que veut dire ACAB, vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15. On cherche toujours. A tout de suite.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette nuit.
Du Rhônais de la région qui s'appelle Stéphane Boulay.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est de la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a vu à les interjouer pendant la masse sur le rassemblement pour le Marais. Qui est l'école de l'Opéra de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et oui, la rubrique locale, on est désolé, on a des problèmes de Larsen, on a réglé le problème de Larsen, ça ne Larsen plus, c'est incroyable. Et du coup, plus de Larsen, une petite musique derrière, pourquoi pas, maintenant c'est Canu Info en mode ascenseur en permanence. Mais pas du tout, puisque nous sommes dans la rubrique locale et on est enchanté ce soir de recevoir un camarade du mouvement des sans-fac. Salut.
Salut.
Et puis, bah, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, tu peux dire aux personnes qui ne seraient pas au courant, c'est qui les Sans Fac, c'est quoi ce mouvement ?
Ouais, pas de problème. Alors moi, c'est Willy. Du coup, je suis membre du collectif des Sans Fac, en effet. Le collectif des Sans Fac, c'est un collectif localement qui se bat pour pragmatiquement obtenir des inscriptions pour les personnes qui n'en ont pas eu à l'université. Et nationalement, puisque c'est une campagne qui est menée dans bien d'autres villes en France, comme Nanterre, Lille, Grenoble, pour exemple, c'est une campagne qui lutte contre la sélection à la fac, de manière très générale, puisque la sélection, elle n'est pas aveugle, elle est raciste, sociale, elle participe à reproduire la société avec sa domination, son cortège d'oppression. Et voilà, c'est pour ça qu'on se bat contre cette sélection à la fac.
Est-ce que tu peux nous dire quand même, cette sélection, elle prend quelle forme, elle s'effectue à quel niveau, et qu'est-ce que c'est les conséquences pour notamment les personnes qui ne seraient pas sélectionnées?
Alors bon, la sélection à la fac, il y en a toujours eu, elle est protéiforme. Avant, on avait une sélection typiquement par l'argent, mais dernièrement, il y a eu des réformes successives qui ont fait que la sélection à la fac, elle est beaucoup plus tangible, et elle se traduit par des plateformes de sélection, telles que Parcoursup à l'entrée de la fac, donc passage du bac à la licence, et Mon Master depuis 2 ans, à l'entrée du coup du master. Voilà, et donc des plateformes qui ont des algorithmes très flous, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais qui participent, comme on l'a dit juste avant, à épargner, enfin, comment dire, à écarter de la fac les personnes qui sont issues des milieux populaires, qui sont issues de l'immigration, etc.
Yes, et est-ce que on peut dire que donc, c'est un mouvement, c'est pas sa première année que le mouvement des Sans Fac arrive, puisque comme tu le dis, la sélection malheureusement elle laisse des gens sur le carreau depuis pas mal d'années. Là il y a une campagne en cours depuis la rentrée, ça va faire bientôt 2 mois, qui est pas seulement locale. Est-ce que tu peux nous dire comment elle se déroule cette campagne? Quelles ont été les actions entreprises ici et ailleurs?
Ouais, pas de problème. Alors effectivement c'est la 6e année consécutive qu'on mène la campagne des Sans Fac localement à Lyon. Effectivement, ça fait 2 mois qu'on essaye d'arracher des inscriptions pour les personnes qui sont sans fac. Un petit mot quand même sur ces personnes-là, c'est, comme on l'a dit, extrêmement majoritairement des personnes qui sont étrangères, des personnes qui sont dans des situations particulièrement urgentes. On a des titres de séjour qui sont en jeu, des logements, parce que si on a un logement crous et qu'on n'a pas d'inscription, eh ben on se fait expulser de son logement. On a des réfugiés politiques, etc. Donc, partant de ce constat-là, on essaye de mettre ces dossiers-là en avant auprès de la présidence pour faire pression, pour obtenir des inscriptions. C'est une campagne qui commence toujours par une phase de dialogue, de négociation avec la présidence d'université, dans laquelle on espère obtenir au moins quelques inscriptions. Et en fait, depuis 2 mois, un mois et demi, on avait obtenu que 3 inscriptions. Pour une 30aine de dossiers recensés et déposés auprès de la fac. Je rappelle qu'à Lyon 2, la fac de Lyon dans laquelle on mène cette campagne, il y a 27 000 étudiants. Nous, ce qu'on met en avant aussi, c'est le fait qu'une 30aine d'inscriptions ne va pas faire exploser la fac, ça n'est pas vrai. Donc on considère que c'est complètement irrespectueux, scandaleux, le fait de n'avoir donné que très peu d'inscriptions, 3, notamment au regard des situations urgentes. Partant de ce constat-là, on a établi le fait que négocier, discuter, avoir des rendez-vous hebdomadaires avec la présidence ne servait plus à rien. Et donc on a essayé d'amplifier en fait le rapport de force, la solidarité avec les Sans Fac, pour la forcer à prendre ses responsabilités. Et dans ce cadre-là, on a décidé d'occuper la cour centrale du campus Berge du Rhône de Lyon 2 pour essayer de lui mettre la pression et d'obtenir des inscriptions.
Et comment ça a été reçu cette occupation, qui n'est d'ailleurs pas la première?
Et ça n'est absolument pas la première, c'est la 3e fois minimum, 4e fois même, si on compte la première année où on avait occupé qu'une seule journée et obtenu toutes les inscriptions qu'on voulait dans la foulée. Mais oui, c'est pas la première occupation qu'on fait. En tout cas, pour la 3e année consécutive, la présidence d'université a décidé d'envoyer les CRS et la police sur l'occupation. Donc si on reprend un peu chronologiquement, on arrive, on se met en place, on occupe, et là on obtient un rendez-vous avec la présidence qui nous dit exactement la même chose que toutes les autres fois. On peut pas pousser les murs, il n'y a pas de moyens, c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui avons fait Parcoursup, c'est des dynamiques nationales, ce qui est en partie vrai, mais nous ce qu'on essaye de démontrer, c'est que la présidence d'université, certes, elle ne décide pas de mettre en place une fac élitiste, etc. C'est des dynamiques qui sont bien plus larges que juste localement à la fac de Lyon 2, en effet. Pour autant, elle y participe et elle a sa pleine et entière responsabilité dans le fait de mettre en place la sélection à Lyon 2. Donc ça c'était le contenu du rendez-vous, pas grand-chose, pas grandes avancées sur les inscriptions. Donc nous on a dit qu'on resterait dans la cour centrale du campus. Parce que voilà, ils ont essayé de nous faire un chantage du genre on peut vous obtenir un rendez-vous avec les facultés, les composantes, voilà, les différentes facultés de la fac, si vous quittez le campus. Nous, on a dit que ça ne nous intéressait pas d'avoir un énième rendez-vous si on n'avait pas de garantie qu'on nous serve autre chose que du mépris. Voilà, c'est vrai qu'on est passé très rapidement là-dessus, mais on a quand même des doyens d'université qui nous ont dit « on fait pas ce qu'on veut dans la vie, moi je voulais être guitariste ». Le mec, il est payé une blinde parce qu'il est doyen de la fac, etc. Et il parlait à une personne qui a eu une maladie rare des globules rouges, qui a été SDF, qui a son titre de séjour et son logement en jeu. Et voilà, il lui a dit « on fait pas ce qu'on veut, je voulais être guitariste ». Bref, donc ça c'était le contenu des rendez-vous, hein, pour information. Donc voilà, nous, sans garantie d'avoir autre chose que ça dans le rendez-vous, non, on a dit on reste en fait, voilà, pour faire pression sur les décisions. Voilà, et ensuite, comme on voyait que ça n'avançait pas, nous on a dit, si vous inscrivez les 7 dossiers les plus urgents, ou vraiment c'est chaud, les 7 dossiers sur lesquels on ne lâchera pas et on ne partira pas tant qu'on n'aura pas de solution pour eux, nous partons, nous levons camp, et pour les autres, le restant de la trentaine de dossiers, eh bien, nous discuterons autrement. La présidence, à partir de ce moment-là, n'a plus daigné répondre à nos mails, voilà. Et a décidé, au bout de 48 heures d'occupation, à 6h30 du matin, d'envoyer les CRS et les policiers sur l'occupation.
Ouais, super. Sachant qu'on rappelle quand même qu'initialement, donc, il faut l'accord des présidences d'université, en fait, leur demande, hein, pour que les flics interviennent, hein, dans les universités, puisqu'il y a la franchise universitaire qui est censée protéger les étudiants et étudiantes sur leur lieu d'études, notamment. Et que, bon, cette franchise, on s'assoit dessus assez confortablement, notamment du côté de Lyon 2, de manière très régulière ces dernières années. Mais pratiquement, du coup, ils se sont pointés à 6h30. Il faut quand même aussi, peut-être, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui se sont fait serrer. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Ça met les en danger. De fait, c'est une mise en danger encore plus grande, et notamment, tu le signalais, sur des étudiants et étudiantes qui sont particulièrement déjà précaires à l'avance.
Tout à fait. Bon, c'est jamais anodin, hein, d'envoyer des policiers et des CRS sur quelconque mobilisation que ce soit, mais encore plus pour une trentaine de jeunes qui ne demandaient qu'à étudier. Voilà, sachant qu'on n'était même pas 30, hein, dans l'occupation, en réalité, on était plutôt 20-25 la journée, et pour dormir, tenir le camp, on était une dizaine. Donc voilà, ils sont arrivés à 6h30. Moi-même, je n'ai pas eu le temps de sortir de ma tente avant qu'ils arrivent vraiment sur le lieu de l'occupation. Ils ont secoué ma tente, ils ont dit « on apporte les croissants », machin. Enfin voilà, vous connaissez les déboires des flics sur les mobilisations. Voilà, ils nous ont... c'est clairement de l'intimidation, hein. Ils nous ont non seulement contrôlé nos identités, mais pris nos identités en photo. Ils nous ont fait des fouilles au corps, ils nous ont demandé si on était armés. Voilà, pour la petite anecdote que je sors tout le temps, il y en a un qui m'a fait sortir ma brosse à dents en pensant qu'il s'agissait d'un couteau. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment de la répression pure et simple, hein, commandée en effet par la présidente de l'université Lyon 2. Nous, ce qui nous inquiète, c'est, bon, évidemment, que quel mépris, quelle hypocrisie pour une présidence qui se dit de gauche, qui s'est fait élire, notamment, bon, c'est vrai que la présidente a changé dernièrement, mais l'équipe présidentielle reste la même, et l'argument de cette liste présidentielle-là, c'était on n'enverra jamais les flics sur les mobilisations étudiantes, force est de constater qu'ils s'y sont accoutumés. Ils sont coutumiers du fait dernièrement. Voilà, et puis, où est-ce que j'allais avec ça? Quel mépris vis-à-vis des sans-facs? Voilà, donc on préfère envoyer, je précise qu'ils étaient entre 50 et 60, hein, les policiers et CRS, on a des vidéos sur nos réseaux UNEF Tacle Lyon, n'hésitez pas à checker, vous voyez la violence que c'est, l'envoi d'une cinquantaine de CRS sur une douzaine de tentes, quoi. Voilà, on préfère envoyer entre 50 et 60 CRS plutôt que d'inscrire 7 personnes à l'université, sur une fac de 27 000 étudiants, je le rappelle. Et enfin, voilà, oui, effectivement, nous, le danger, c'est de s'accoutumer à ça, quoi. Parce que on en parlait juste avant, il y a une dizaine d'années, ça se passait pas comme ça, sur les facs. Et dernièrement, c'est une répression qui s'est accentuée, notamment durant les mandats de Macron, sur les mobilisations des jeunes. Donc voilà, on voit que l'expression politique des jeunes, elle pose vraiment problème au gouvernement, aux préfectures, etc. Ils en ont vraiment très peur. Et à Lyon 2, notamment, cette répression, elle s'est traduite par l'instrumentalisation du plan Vigipirate, qui est en vigueur depuis plus d'un an à Lyon 2. D'ailleurs, le point de départ, ça n'avait pas grand-chose à voir, mais on pense que c'était très, très bien tombé pour la présidence, c'était l'assassinat de Dominique Bernard. Voilà. Mais donc, du fait de... C'est un très triste événement, bien sûr, événement, c'est dégueulasse, hein, mais... En partant de ça, on a un plan Vigipirate qui est appliqué sur les facs, sur les campus, qui interdit toute manifestation, toute expression politique, tout rassemblement. Pour l'anecdote, vraiment tenir une table syndicale à Lyon 2, toute conne, hein, vraiment juste pour informer les étudiants de leurs droits, ce qui se passe en termes de destruction des droits des étudiants, etc. C'est un calvaire, c'est un parcours du combattant, tant il faut s'y prendre en avance pour demander l'autorisation à la présidence d'université. C'est un délai de plus de 2 semaines pour ne serait-ce que vraiment, très littéralement, sortir une table de son local, mettre des chaises à côté et voilà, pour distribuer des tracts et vendre le café, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est très flippant et on a peur de ce qui peut arriver par la suite, d'autant plus que c'est une répression qui ne se limite pas à la campagne sans fac. Voilà, c'est pas que les sans fac qui sont concernés par ça, c'est toute l'expression politique des jeunes sur des questions typiquement sur la question palestinienne, voilà, où on sait que la jeunesse a vraiment un fort intérêt et un fort enthousiasme à défendre la cause palestinienne, voilà, mais ça peut être le féminisme, voilà, l'antiracisme, etc. Et donc nous, on a vraiment on veut vraiment maintenir le fait qu'on veut s'exprimer sur tous les sujets politiques, les combats politiques qu'on choisit de porter.
Yes, et comme tu le disais, effectivement, cette répression, elle est globale. On disait sur la question palestinienne, notamment, il y a eu cette notice, je ne sais pas si tu peux en dire un mot, que le ministre de l'enseignement supérieur, donc Patrice Hetzel, alors pour une fois, c'est l'enseignement supérieur qui a tiré l'un des plus extrêmes hein, du lot. En général, ils mettent un MOOC qui fait juste des politiques néolibérales. Là, on a un peu le radical de l'espace, là, qui est anti-vax, pro-homéopathie. C'était un fan de Didier Raoult et il est complètement facho. Et du coup, il a fait passer une circulaire sur la question palestinienne.
Ouais, Patrick Hetzel, il n'a pas été nommé depuis 2 semaines qu'il a déjà envoyé une circulaire à toutes les présidences d'université qui, tout simplement, au nom de la laïcité, invite à réprimer toute forme d'expression politique en soutien au peuple palestinien, quoi. Voilà, enfin, je vois pas plus simple comme manière de le dire. On en parlait également juste avant, à la fin de ce mail, il y a quand même le protocole vierge pour, en tant que président d'université, déclarer un incident de ce type-là à la préfecture. Donc c'est vraiment une invitation à déclarer, en fait, dénoncer toute forme d'expression politique sur les facs, notamment au sujet de cette question-là. Et d'ailleurs, voilà, le motif invoqué, c'est la laïcité. La laïcité n'a rien à foutre dans l'enseignement supérieur. Enfin, c'est complètement hors sol. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus que...
Oui, si elle n'a rien à foutre dans l'enseignement supérieur, elle n'a rien à foutre dans la question pro-palestinienne.
Voilà, oui, bien sûr.
C'est, dans le soutien à Gaza, elle est juste comme d'habitude voilà, instrumentalisée pour toujours combattre les mêmes personnes. Du coup, on se disait aussi précédemment quand même que cette répression, par ailleurs, et notamment les mouvements étudiants dans les universités sur l'enjeu du soutien à Gaza, elle est en fait internationale, donc ça s'inscrit quand même dans une démarche malheureusement extrêmement générale. Enfin, malheureusement, ce serait pas beaucoup plus heureux pour nous si c'était un isolat français, mais il faut quand même constater que aux États-Unis, en Allemagne notamment, il y a eu quand même des répressions universitaires conséquentes des mouvements de soutien aux Gazaouis. Mais ceci nous emmène sur un autre sujet international qu'on va aborder dans quelques minutes. Est-ce que, juste avant qu'on se quitte, tu peux, si des auditeurs, auditrices voulaient venir vous soutenir, vous accompagner, vous rejoindre aussi, s'il y a des étudiants, étudiantes qui ne vous connaissaient pas jusqu'ici, j'en doute un peu, qui vous découvrent grâce à nous, comment est-ce qu'on vous contacte ?
Alors, nous avons nos réseaux sociaux, UNEF Tacle Lyon, UNEF comme UNEF, le syndicat étudiant, Tacle, T-A-C-L-E, Lyon, comme Lyon. Voilà, donc c'est à peu près ça sur toutes les plateformes. Sur Instagram, on poste vraiment pas mal de nos positions politiques, nos actualités, etc. Je tiens quand même à rappeler que la mobilisation des sans-fac, elle ne se termine pas avec cette répression-là. On va tout faire au moins pour arracher quelques inscriptions, pour sortir de la merde ces étudiants dans les situations urgentes dont on parlait. Voilà, donc n'hésitez pas justement à suivre nos réseaux sociaux pour voir les suites qu'on va proposer et nous rejoindre. Ça a quand même fait parler, hein, à cette répression-là, l'envoi des flics sur l'occupation. On a des étudiants qui nous contactent sur Instagram pour essayer de rejoindre le mouvement, donc n'hésitez pas à continuer. Voilà, et globalement, on poste toutes nos nouvelles là-dessus, donc n'hésitez pas.
D'accord, eh bien, écoute, on vous passe un gros message de soutien. Merci et puis beaucoup. Nous, on continue immédiatement avec la rubrique internationale.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui est revenu, quelle surprise, avec force dans les discussions européennes, c'est bien sûr l'immigration. Pourquoi cette question est-elle de nouveau au cœur des débats au sein de l'Union européenne? Quelles sont les nouvelles dynamiques à l'œuvre et comment les différents pays européens y réagissent? Eh bien, il faut commencer par rappeler que cette question n'est pas nouvelle. La dernière fois que l'Union européenne a été massivement secouée par une crise migratoire, c'était en 2015-2016, on se rappelle bien, quand plus de 2 millions de personnes, principalement des réfugiés syriens, avaient alors cherché à rejoindre l'Europe pour fuir la guerre. Cette période avait poussé l'Union européenne à redéfinir ses politiques migratoires après des années de négociations parfois très houleuses entre les États membres. Et après près de 10 ans de discussions, en avril dernier, l'Union finalisait un nouveau pacte sur l'asile et les migrations. Donc ce pacte avait un objectif clair, mieux organiser l'accueil des demandeurs d'asile. C'est pas ça. Renforcer les frontières extérieures de l'Union et accélérer les retours de ceux dont les demandes d'asile sont refusées. Mais aujourd'hui, alors que le nombre d'arrivées régulières a chuté de plus de 35% par rapport à l'année dernière, l'immigration est de nouveau sur toutes les lèvres, et ce pour une simple raison. On le connaît?
Eh bien, je dirais le racisme.
Bon, la montée des partis d'extrême droite un peu partout en Europe.
Ouais, ça va, j'étais pas très loin.
Pas très loin. Alors, parlons un peu de cette montée en puissance. Aujourd'hui, moins de 7 pays de l'Union européenne, des partis anti-immigration, souvent classés à l'extrême droite, sont soit au pouvoir, soit ont une influence significative sur les politiques du pays. On peut citer bien sûr la Finlande, l'Italie, encore la Suède, où ces mouvements soutiennent des gouvernements minoritaires. Et plus récemment, en Autriche, le Parti de la Liberté, un parti eurosceptique d'extrême droite, a remporté le dernier scrutin. Même en Allemagne, un pays souvent perçu comme un bastion de la modération, bon, l'Alternative für Deutschland, ce parti d'extrême droite, a réalisé des gains électoraux historiques. Et n'oublions bien sûr notre pays, la France, où Marine Le Pen et son Rassemblement National tiennent une place de plus en plus importante dans le débat public. Et bien sûr le nouveau Premier ministre français, qui a d'ailleurs récemment qualifié le niveau d'immigration actuel de souvent insupportable. Enfin, ces partis utilisent une rhétorique forte pour mobiliser l'électorat autour de la question migratoire, ce qui pousse les gouvernements à durcir leur position. Prenons l'exemple de l'Allemagne, où, longtemps considérée plutôt comme ouverte en matière d'immigration, Frau Merkel, vous en dites, l'Allemagne a tout récemment durci ses lois sur l'asile. Et encore plus marquant, elle a rétabli des contrôles à ses frontières terrestres, une mesure qui n'est pas sans inquiéter les défenseurs de l'espace Schengen et de la libre circulation, deux piliers, on dirait, fondamentaux de l'Union européenne. Bon, l'Allemagne n'est pas la seule. Cet autre pays de l'espace Schengen, invoquant notamment des menaces terroristes et des systèmes d'asile débordés, ont eux aussi réintroduit les contrôles aux frontières. Aux Pays-Bas, par exemple, le gouvernement a annoncé ce qu'il appelle les règles d'admission les plus strictes de l'Union européenne, un vrai tournant pour ce pays, dit The Guardian, comme si Geert Wilders n'avait jamais existé.
Oui, il y a quand même un vrai passé.
Ah, voilà.
Un vrai passé facho, quoi.
Et puis, il y a bien sûr la Pologne et la Finlande qui vont encore plus loin. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a récemment déclaré vouloir suspendre purement et simplement le droit d'asile pour les personnes traversant la frontière depuis la Biélorussie. L'objectif affiché, c'est quoi? Alors, c'est réduire la migration irrégulière à un strict minimum et reprendre, je cite, le contrôle à 100% de ceux qui entrent et sortent du pays. Enfin, cette décision fait suite à une mesure similaire prise par leur voisin, on dirait, la Finlande, pour les personnes qui arrivent de Russie. Ces deux pays, la Pologne et la Finlande, accusent en fait Minsk et Moscou d'utiliser l'immigration comme une arme politique dans ce qu'ils appellent une forme de guerre hybride. Autrement dit, pour eux, ces flux migratoires sont encouragés, bien parfois même orchestrés, par leurs voisins pour déstabiliser, on dirait, l'Union européenne. Et puis, bien sûr, on a l'exemple toujours de l'Italie qui innove avec des mesures controversées. Le gouvernement de Meloni a ouvert 2 centres juste récemment, cette semaine en fait, en Albanie, pour y retenir les hommes arrivant d'Afrique en Europe, le temps que leur demande d'asile soit traitée par Rome. Selon elle, cette approche serait, je cite, une nouvelle voie courageuse et sans précédent, si inspirant en fait, si l'on compte Keir Starmer et Bruno Retailleau qui ont salué la soi-disant pragmatisme de Meloni.
Et oui.
Mais au-delà de cette décision nationale, quelles sont en fait les options sur la table à l'échelle de l'Union européenne ? Plusieurs idées circulent, mais elles ne sont pas encore clairement définies. Beaucoup d'entre elles s'articulent autour de la délocalisation du problème migratoire. En d'autres termes, il s'agirait d'externaliser le traitement des demandes d'asile en s'inspirant de ce que le Royaume-Uni avait tenté de mettre en place avec son projet controversé pour le Rwanda. L'idée, en fait, serait d'envoyer les migrants en situation irrégulière dans des pays tiers, souvent en Afrique, où leur demande serait, disons, traitée. Mais cette option n'a pas encore été débattue publiquement au sein de l'Union. Ce qui est discuté, en revanche, ce sont les fameux hotspots, ou centres de migration, des installations situées toujours en dehors de l'UE, où les demandeurs d'asile seraient retenus le temps que leur demande soit examinée. Certaines discussions portent aussi sur les accords de partenariat avec des pays comme la Turquie, la Tunisie ou la Libye ou pour freiner ces tentatives de traverser vers l'Europe. D'ailleurs, 14 États membres, dont la France et l'Allemagne, ont déjà signé une lettre appelant à un véritable changement de paradigme en matière de migration. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est accélérer les expulsions des personnes dont les demandes d'asile ont été rejetées. Mais actuellement, seule une personne sur 5 est effectivement expulsée après avoir été déboutée, un taux qui beaucoup jugent insuffisant. Alors, quel est le résultat ? Pouvons-nous espérer de ces discussions ? Est-ce que nous pouvons espérer en fait quelque chose ? Le gouvernement polonais a déjà obtenu du soutien pour son projet de suspension d'asile pour les arrivants de Biélorussie et de la Russie. Quant au fameux centre de retour au dehors de l'Union européenne, l'idée est encore à l'étude. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment déclaré que l'Union européenne devait envisager sérieusement cette option, même si la faisabilité reste incerte. D'ailleurs, on ne sait pas encore quel pays serait prêt à accueillir de tels centres. À ce jour, seuls l'Albanie et le Kosovo ont conclu des accords et sur une petite échelle. Mais attention, ces mesures sont loin de faire l'unanimité. Bien sûr, heureusement, on n'est pas toutes et tous des fascistes. Les critiques sont nombreuses, notamment de la part des organisations de défense des droits humains, qui pointent du doigt les graves violations constatées dans certains pays partenaires comme la Turquie ou la Libye. Quant au centre de retention, The Guardian se demande, et on se demande pourquoi ils se demandent en fait, s'ils peuvent réellement être humains, efficaces et conformes au droit international.
Quelle question quand même.
C'est une bonne question quand même.
C'est bien les journalistes, on voit qu'ils travaillent.
The Guardian, toujours. L'Europe est donc à la croisée des chemins sur la question migratoire. D'un côté, il y a eu une volonté croissante, bien sûr, de durcir les politiques, notamment sur la pression des électorats et des partis d'extrême droite. De l'autre côté, il reste de nombreuses questions sans réponse, tant sur le plan légal qu'éthique. Bon, on se pose de moins en moins, je pense. Une chose est sûre, ce débat n'est qu'à ses débuts et il promet de rester au cœur des préoccupations politiques dans les mois, voire les années à venir, vu ce qui se passe surtout peut-être dans le Proche-Orient.
Absolument, et après toutes ces bonnes nouvelles, on se passe un petit peu de musique en espérant des jours meilleurs.
Run them jewels fast, run them jewels fast, running, fuck the slow mo. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in this shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick.
I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off on your crib, take a shit, pitch your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like he's Santa and took picture with your kids.
We the best, we will cut a frowny face in your chest, little wimp.
bitch, I'm unmentionably fresh, I'm a mensch, get correct. I will walk into a court while it wrecks, screaming yes, I am guilty, motherfuckers, I am deaf.
Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked.
Just victims of the in-house drive-by. They say jump, you say how high. Get running, start pumping your bunions. I'm coming, I'm the dumbest. Who flame throw your function to Funyuns? Flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame, fuckers, your fame and face dumbest.
I'll rob Charlie Brown, Peppermint Patty, Linus and Lucy. Put coke in the doobie, roll woolies to smoke with Snoopy. I still remain that dick grabbing slacker that spit a loogie. Cause the total of the toolie, you'll murder your fucking moolies. Fuck outta here.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et oui, il y a plein, pas mal de façons de lutter. Il y a même des fois des façons de lutter qui passent par le droit. Et c'est pourquoi une quinzaine d'organisations attaquent l'algorithme de notation des allocataires, des caisses d'allocation familiale, les fameuses CAF. En justice, et pas devant n'importe quelle justice, puisque ce sera devant le Conseil d'État, et ce au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination. Ce recours en justice contre un algorithme de ciblage d'un organisme ayant mission de service public est une grande première dans notre beau pays, et on peut s'en féliciter, bon, on s'en félicitera surtout si ce recours est victorieux. On vous en a déjà parlé, en effet, hein, dans le Canu Info du vendredi, l'algorithme de la CAF attribue à chaque allocataire un score de suspicion dont la valeur est utilisée pour sélectionner celles et ceux faisant l'objet d'un contrôle. Plus il est élevé, plus la probabilité d'être contrôlé est grande. Chaque mois, l'algorithme analyse les données personnelles de plus de 32 millions de personnes vivant dans un foyer recevant une prestation de la CAF. 32 millions, on le rappelle, c'est plus que le nombre de foyers qui perçoivent des allocations. C'est parce qu'en fait, on contrôle aussi les données personnelles des enfants pour déterminer ces scores de suspicion. Et donc, après ces 32 millions de personnes qui se sont fait scruter leurs données personnelles, chaque mois, l'algorithme calcule 13 millions de scores. Et ces scores amènent à des contrôles. Et parmi les facteurs venant augmenter un score de suspicion, on trouve notamment le fait d'avoir de faibles revenus, d'être au chômage, de bénéficier du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé. En gros, faut pas être pauvre. Donc, c'est marrant parce que la CAF, c'est censé quand même bénéficier aux plus précaires. Mais plus vous êtes précaire, plus vous avez des chances qu'on vous contrôle. En retour, les personnes en difficulté se retrouvent donc surcontrôlées par rapport au reste de la population. C'est marrant comment cette désignation des personnes comme fraudeuses ou fraudeurs les amène toujours à taper au bas de l'échelle. Ce recours donc devant le Conseil d'État, il est porté collectivement par 15 organisations. Alors on ne va pas toutes les citer, mais parmi elles, il y a la Quadrature du Net, Amnesty International France, le groupe d'information et de soutien aux immigrés, le fameux GISTI, la Ligue des droits de l'homme ou encore le Mouvement national des chômeurs et précaires et le syndicat des avocats et avocates de France. Ce recours, il porte à la fois sur l'étude de la surveillance à l'œuvre et sur la discrimination opérée par cet algorithme envers les allocataires déjà fragilisés dans leur parcours de vie. En assimilant précarité et soupçons de fraude, l'algorithme participe d'une politique de stigmatisation et de maltraitance institutionnelle des plus défavorisés. Les contrôles, en effet, au-delà d'être ciblés, sont des moments très durs à vivre, particulièrement compliqués. Ils génèrent une forte charge administrative, une grande anxiété chez les personnes et il s'accompagne régulièrement de suspensions du versement des prestations précédant des demandes de remboursement, notamment d'indus non motivés. Dans les situations les plus graves, des allocataires se retrouvent totalement privés de ressources et ce, en toute illégalité. Puisque c'est pas censé être le cas. Quant aux voies de recours, elles ne sont pas toujours ni compréhensibles ni accessibles aux personnes qui, à nouveau, sont souvent dans des parcours de vie très compliqués et donc qui ont une grande difficulté à accéder aux droits, tout simplement. Alors que l'utilisation de ces algorithmes de notation se généralise au sein des organismes sociaux, la CNAF, la CAF n'étant pas la seule, la coalition de 15 organisations qui attaquent le recours vise à construire un front collectif afin de faire interdire ce type de pratique et d'alerter sur la violence dont sont porteuses les politiques dites de lutte contre la fraude sociale. En bref, il s'agit de s'attaquer à la politique d'acharnement contre les plus pauvres, actuellement en cours, depuis beaucoup d'années, et c'est un coup à lui porter. Si ça pouvait marcher, on serait ravis.
Canu Info du vendredi. Rubrique Santé, Handicap.
Les patients, ils manquent de plein de choses, ils manquent de soins, je ne peux pas leur offrir le temps nécessaire à leur bien-être.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris pour demander une vraie individualisation de l'allocation adulte handicapé.
C'est vrai que le gouvernement n'a pas soutenu cette mesure.
Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades.
It's basic truth of the human condition. Everybody lies.
Hello. I'm the doctor. Basically, run.
Alors, vous avez sans doute déjà vu, lu, entendu le slogan « Quand tout sera privé, on sera privé de tout ». Et ce slogan, il résonne particulièrement avec la destruction de l'hôpital public et son pendant, qui est son remplacement partiel par des boîtes privées. En France, un des leaders du marché lucratif qu'est la santé, c'est le groupe Ramsay. Ramsay Santé, qui possède une vingtaine de cliniques, gère des services d'urgence, emploie plus de 35 000 personnes et a réalisé en 2022 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas mal quand même. Et il semble que ce groupe, qui gagne pas mal sa vie, parce qu'il dégage aussi des jolis bénéfices, en tout cas certains de ces services d'urgence de ce groupe Ramsay trient leurs clients, enfin pardon, leurs patients, on dit encore, il paraît. Et pour les trier, l'objectif c'est de pas trop s'emmerder avec les cas les plus compliqués. Et ça, on l'apprend dans Le Canard Enchaîné, qui s'est procuré un document interne à l'hôpital privé de l'Estuaire. Donc l'hôpital privé de l'Estuaire, c'est une clinique de Ramsay au Havre, qui fait une liste des malades non recevables, car les pathologies dont ils et elles souffrent ne sont pas rentables. Et oui, c'est chouette, hein. L'hôpital privé du Havre y précise qu'il ne prend pas en charge la gériatrie, la psychiatrie et la dictologie. En gros, halte aux vieux, aux déments et aux junkies. Et pour reprendre les termes exacts, il n'est pas question pour eux de prendre, je cite, en charge des patients qui présentent des troubles cognitifs sévères, des troubles psychiatriques, dont le maintien à domicile est difficile, dont la situation sociale est difficile, donc pas de pauvres, hein, s'il vous plaît, ou pire, il ne faut surtout pas prendre en charge des patients sans devenir. Alors là, on se pose la question, c'est quoi un patient ou une patiente sans devenir? Est-ce que c'est un ou une malade qui va mourir avant d'avoir pu régler la facture? Est-ce que c'est un ou une malade qui va faire chuter les statistiques des médecins de la boîte qui n'aiment pas trop quand ils meurent parce que ça leur donne des moins bonnes statistiques d'avoir soigné plus de monde? On ne sait pas trop. En tout cas, celles et ceux qu'on retrouve dans cette liste sont clairement les patients et patientes jugés complexes et qui se révèlent peu rentables à l'usage pour l'entreprise. La boutique, là, l'Estuaire, préfère les malades dont l'hospitalisation est programmée, hein, c'est plus simple. Les urgences, avec leur lot d'aléatoires, bah, c'est pas trop son truc. Et l'été dernier, bah, l'Estuaire les a carrément fermés les nuits des vendredis, samedis et dimanches, tout l'été, en attendant le 1er septembre pour les rouvrir. Et il est d'ailleurs probable, hein, que la situation de telles urgences privées soit identique, hein, dans d'autres cliniques privées. En tout cas, ce qui illustre ce cas de cette clinique Ramsay, c'est quand même la partition qui se dessine et qui se renforce entre cliniques privées et hôpitaux publics, un peu partout sur le territoire, mais pas seulement, c'est aussi valable chez dans les pays étrangers, limitrophes notamment. D'un côté, bah, on va avoir des chambres hôtelières 3 étoiles pour des clients solvables, sélectionnés parce que leurs pathologies sont particulièrement rentables à traiter, et c'est ces chambres hospitalières 3 étoiles, on va aussi les retrouver dans une sorte de privatisation, hein, de l'hôpital public, hein, notamment on peut le voir aux HCL, les hôpitaux civils de Lyon, hein, avec ce qui s'appelle Hapital. Vous pouvez payer plus cher pour avoir une meilleure qualité d'accueil. À ce stade, c'est juste une meilleure qualité d'accueil, peut-être qu'un jour ce sera une meilleure qualité de soins. Et de l'autre, bah, en face, on va avoir une masse de patients et patientes sans le sou, avec des maladies peu bankable et qui s'entassent dans les couloirs de services d'urgence publics en sous-effet chronique, avec des lits qu'on n'en finit plus de fermer, et puis pas mal de patients patientes qui finissent juste par mourir dans un coin sur un brancard parce qu'il n'y a pas les moyens de les prendre en charge. Bref, cette santé à au moins deux vitesses absolument injuste, bah, elle s'amplifie encore, et cet exemple de ces cliniques privées qui choisissent leurs patients patientes pour en prendre des biens rentables bien pas chiants, bah, c'en est une bonne illustration.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel!
Et ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas utilisé de jingle là pour l'agenda, c'est incroyable. L'agenda. Et tout de suite, c'est l'agenda. Où est-ce qu'on va ce soir? On va au théâtre? Eh bah, ben, pas forcément, puisque où vous pouvez aller ce soir? Il y a rien que 3 événements potentiellement intéressants qui se déroulent actuellement même. À 18h, donc il y a 42 minutes, un rassemblement a commencé contre la répression coloniale en Kanaky, appelé par le collectif Solidarité Kanaky, qui invitait donc ce 18 octobre aujourd'hui Place de la Comédie, donc Place de la Comédie, c'est entre l'Hôtel de Ville et l'Opéra, pour dénoncer la répression qui s'intensifie en Kanaky, avec les exigences suivantes, notamment l'arrêt immédiat de la répression policière armée, le retrait des forces de l'ordre, la fin d'une justice unilatérale au détriment des Kanaks et indépendantistes, la démission du haut-commissaire Louis Lefranc, la libération des prisonniers prisonnières ayant contribué à la lutte de libération de Kanaky. On rappelle qu'une grande partie d'entre eux sont en fait emprisonnés sur le territoire français métropolitain, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres de leurs proches, et enfin la reprise du processus de décolonisation. Si vous voulez aller vous battre contre la répression coloniale en Kanaky, c'est maintenant Place de la Comédie. En parallèle, aujourd'hui même, à 18h30, donc il y a 13 minutes, a commencé une rencontre sur la régularisation par le travail des personnes étrangères. Les 6 cycle de rencontres Lyon Info Migration reprennent en effet cette année avec une première soirée il y a déjà quelques semaines et à nouveau ce soir un point. Donc en fait c'est pour faire un point notamment avec les camarades de la CNTSO autour des enjeux de régularisation. Si notamment vous êtes concerné, ça peut être pertinent, notamment dans un contexte où la loi Darmanin a durci les choses, et puis il paraît qu'on nous promet déjà une nouvelle loi immigration dont on s'attend à ce qu'elle soit évidemment encore un grand manifeste d'ouverture. Et enfin, ce soir, à nouveau, eh bien, il y a le vernissage des l'exposition, enfin c'est pas si une exposition en tout cas, de l'Observatoire des armements. Puisque pour ses 40 ans, donc l'Observatoire des armements a été créé en 1984, nous sommes en 2024, le compte est juste, l'Observatoire des armements organise une installation artistique du 18 octobre, donc aujourd'hui, au 5 novembre, c'est-à-dire dans deux semaines, la mairie du premier arrondissement, donc juste à côté des locaux de Radio Canu. Et ce lieu est créé en écho au bureau véridique en collaboration avec le collectif d'artistes Foutoir. Cette action entre en résonance avec le rapport publié par l'Observatoire des armements qui s'appelle « La guerre se fabrique près de chez vous », une étude réalisée sur l'impact des entreprises d'armement de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les conflits. Aujourd'hui, pour renforcer la sensibilisation sur le rôle des entreprises d'armement en France et leur impact sur les conflits, l'Observatoire met en place un réseau de surveillance des entreprises d'armement et il propose de venir se renseigner sur les actions en cours directement sur les lieux. Donc le vernissage c'est ce soir à 19h30, donc c'est maintenant, et puis il y aura une clôture, on vous l'annonce tout de suite, le 5 novembre à 19h30 aussi, et cette clôture ce sera une conférence gesticulée des clowns Palomar et Zigomar intitulée Palomar vend des armes, une conférence gesticulée avec des clowns, et allez-y si vous aimez ce genre de trucs.
Ensuite, pour ce week-end, le 19 et le 20, samedi et dimanche, on a la Douille, festival féministe et queer de savoir-faire technique. La Douille, c'est un collectif qui s'est formé dans la double volonté de s'autonomiser pour apprendre ou bien réapprendre collectivement la débrouille et de se rencontrer pour se parler, échanger, se politiser, mais aussi juste être ensemble et kiffer. Ils organisent donc un festival féministe et queer des savoir-faire techniques en mixité choisie qui se tiendra ce week-end à la Friche Lamartine au 21 rue Saint-Victorien à Lyon 3. Il faut quand même s'inscrire a priori, c'est-à-dire envoyer un email à contact-ladouille@mailo.org. mailo.org, c'est ça.
Ouais, je crois que il fallait s'inscrire, je crois que c'est passé, mais il y a peut-être moyen d'envoyer un mail si vous êtes
je pense. toujours demain à partir de 14h, rassemblement intitulé Amazon comme ailleurs, ensemble contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a un appel à rassemblement à partir de 14h, comme on l'a dit, devant le palais de justice de Lyon pour dire non aux violences sexuelles et à la culture du viol Amazon, comme partout ailleurs. Pour lutter contre ces violences sexistes et sexuelles, les organisateurs proposent et demandent parmi autres choses des moyens pour une politique culturelle et éducative antisexiste ambitieuse, des moyens pérennes pour la prévention des violences et pour que soit enfin appliquée la loi de 2001 sur les interventions en milieu scolaire pour l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la formation des tous et toutes les professionnels de santé au consentement et à la prise en compte de la diversité des corps et des identités, la formation de toutes et toutes les professionnels de la police et de la justice pour que cesse l'humiliation systématique des victimes et d'impunité et l'impunité des auteurs, et bien ou la reconnaissance des violences sexuelles comme motif pour obtenir du droit d'asile. Et pour en finir l'agenda, toujours demain dans la soirée à partir de 18h, atelier d'écriture intitulé « Écris-moi la Palestine » qui va se dérouler à la librairie La Tannerie. 68 boulevard des États-Unis, Lyon, dans le cadre de la campagne en Palestine. Tout n'a pas commencé le 7 octobre 2023.
Voilà des tas de choses à faire demain, et puis dimanche on dort et lundi on remet le couvert, et il y aura notamment une causerie sur l'héritage de Frantz Fanon, causerie qui aura lieu lundi 21 octobre à 19h comme traditionnellement au Clameur, avec Douce Dibondo. Alors la question c'est: qui était Frantz Fanon, quel a été son impact sur les luttes de son époque, et quel héritage peut-on tirer pour les luttes d'aujourd'hui? Et cette causerie sur l'héritage de Frantz Fanon, elle aura donc lieu avec Douce Dibondo, qui est chercheuse, autrice et militante. Elle est notamment autrice de l'ouvrage La charge raciale, vertige d'un silence écrasant, publié cette année. Elle est également à l'origine du podcast Extimité, un podcast qui vise à recueillir les témoignages de personnes minorisées et subissant des discriminations.
J'avais aucune idée que Frantz Fanon a vécu à Lyon.
Je pense pas que Frantz Fanon ait vécu à Lyon.
Je pense, oui.
C'est vrai? Oui. Écoute, je pense
pendant quelques années, oui.
C'est vrai? C'est une excellente raison de se rendre à cette au Clameur pour confirmer tout ça. Mais tu dois avoir raison, écoute, je n'ai... Incroyable. En attendant, mardi 22 octobre, il y aura une discussion rencontre autour d'un sujet qui nous occupe quand même pas mal, hein, hébergement d'urgence, puisque des milliers de personnes à la rue sont à Lyon, ou des milliers de personnes sont à la rue à Lyon plutôt. Où est passé le droit à l'hébergement, hein, donc, on vous en a parlé, on vous en a même parlé en direct il y a une semaine. On a toutes et tous été les témoins de nombreuses expulsions récentes de lieux de vie et de lutte ces dernières semaines. Ces lieux, en plus d'être ancrés dans la vie des quartiers des luttes locales, proposent des solutions à la situation dramatique de l'hébergement à Lyon, hein, que notamment les pouvoirs publics ne prennent pas vraiment en charge. Et face à une situation de plus en plus révoltante, pour cette deuxième soirée de Lyon Info Migration, il y a une invitation à venir faire le point sur la situation, revenir sur le parcours de l'accès à l'hébergement, visibiliser les luttes actuelles et continuer de diffuser l'information sur la précarité grandissante de plus en plus de personnes vis-à-vis du logement. Il y aura au moins la participation du collectif Hébergement en danger, sans doute d'autres collectifs qui se mobilisent sur ces questions. Et l'objectif sera de mieux connaître les droits afin de pouvoir nous défendre collectivement contre des pouvoirs publics négligents et hors la loi. C'est donc mardi, le 22 octobre, ce sera à 18h30 et ça se passe à l'Amicale du Futur. Et l'Amicale du Futur, c'est situé rue Sébastien Griff, évidemment à la Guillotière. Un certain nombre de ces informations étaient tirées du site rebellion.info. Vous pouvez vous rendre sur https://rebellion.info pour davantage d'informations. Quant à nous, on se pose toujours une éternelle question.
Canyon Info du vendredi. Je m'appelle Margot, j'ai 3 ans et je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la radio la plus brillante.
Radio Canu, la radio la plus bruyante, mais Radio Canu, Margot, qui va quand même répondre à ta question, puisqu'évidemment, pendant que nous déblatérions des âneries, eh bien, des personnes se concentraient pour essayer de répondre à cette question et nous ont appelé en masse au standard de Radio Canu. Et on nous a notamment proposé, ce sera le ACAB du soir, attaquer la CNAF pour aider les bénéficiaires. Voilà, il est 19h52, c'est le mot de la fin.
Mot de la fin.
Écoutez, on revient la semaine prochaine. C'était le Canu Info du vendredi. On vous laisse pendant quelques minutes avec les délicieuses bandes continues. Ensuite, votre émission traditionnelle de Boogie Woogie Noise Pollution arrive. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.
Bon week-end.